À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler transition et quel est l'impact de la transition écologique sur les métiers. Ce sera l'occasion d'un reportage en seconde partie d'émission puisqu'une exposition est en cours à l'espace Mendès France. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Mais tout de suite, on accueille notre invité du jour, c'est Jean-Jacques Latouille qui est de la délégation APF France Handicap de la Vienne. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Eh bien, merci d'être avec nous, puisque dans quelques jours, on va fêter l'anniversaire de la loi handicap du 11 février 2005, 20 ans déjà, et vous avez décidé de célébrer ces 20 ans et peut-être aussi de faire un coup de gueule, hein, c'est un peu ça aussi. En tout cas, il y a des rendez-vous qui sont prévus la semaine prochaine, lundi et mardi à Poitiers et Châtellerault. On y reviendra sur ces rendez-vous. D'abord, peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices ce qu'a changé cette loi handicap du 11 février 2005.
Elle a changé beaucoup de choses. Elle en changerait beaucoup plus si elle était réellement mise en application. Ça a été une évolution considérable. Historiquement, il y a eu quelques lois après la Première Guerre mondiale, notamment en faveur des invalides de guerre. Puis il y a eu la fameuse loi d'orientation en faveur des personnes handicapées de 1975 qui ouvrait la société aux personnes en situation de handicap avec des restrictions, puisque n'était considéré handicapé que quelqu'un qui était reconnu comme tel par la commission. Donc la loi de 2005 déjà a fait sauter ce verrou. Ce n'est plus la commission qui reconnaît si la personne est handicapée ou pas. Il y a un dossier médical, etc., assez compliqué et complexe, mais qui montre bien les difficultés que la personne peut avoir. Et le handicap, déjà avant 2005 par l'OMS et par l'ONU, est reconnu en fonction des situations dans lesquelles se trouve la personne. Je veux dire, l'exemple qu'on donne classiquement, c'est que quelqu'un de valide monte les escaliers. Quelqu'un qui ne peut pas monter les escaliers, c'est quelqu'un qui est déclaré en situation de handicap. Là aussi, c'est une évolution sémantique importante. On n'est pas handicapé uniformément toute sa vie, on est en situation de handicap. On le voit bien, on l'a vu avec les para-athlètes, on l'a vu avec des gens comme Crouzon qui traverse la Manche, alors qu'il est quand même sacrément en difficulté dans le temps ordinaire. Mais là, pour traverser la Manche, eh ben, il l'a fait et que moi, je ne pourrais pas le faire, par exemple. Et que bien des gens que je fréquente, qui sont dits valides, ne pourraient pas le faire non plus. Donc, il y a des gens valides qui se retrouvent parfois en situation de handicap, et notamment par rapport aux problèmes d'accessibilité.
Alors, quels sont les domaines dans lesquels vous constatez les plus grandes avancées depuis l'adoption de cette loi ?
Alors, les plus grandes avancées, c'est surtout au niveau de la reconnaissance du handicap et de la reconnaissance au-delà des autorités administratives, c'est la reconnaissance par les populations, si on me permettait ce raccourci. Je veux dire que avant, handicapé, il était un petit peu mis en marge. Là, maintenant, les gens n'ont pas, et les JO n'ont rien fait là-dessus. Je veux dire, ils n'ont pas apporté beaucoup plus que ce qui existait déjà. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 40 ans. Il y a 40 ans, les handicapés étaient encore dans des établissements un petit peu en marge. Maintenant, on les voit dans la société et on les voit sur scène. On les voit faire du sport. C'est quand même une grande avancée qui a permis la loi de 2005, c'est de travailler sur les stéréotypes. Alors, il en reste encore. On voit bien ce que sont les handicapés physiques, on voit bien ce que sont les malvoyants, les sourds des fois un peu moins, les handicapés, si vous me permettez l'expression, les handicapés psychiques font partie des handicaps invisibles et on a des difficultés. Et puis il y a tout un tas de pathologies physiques qui font qu'on est en situation de handicap mais que ça ne se voit pas et ça rend par exemple difficile l'accès au bus.
Alors par contre, il y a des aspects où les progrès sont insuffisants malgré cette loi de 2005.
Ah bah oui, essentiellement l'accessibilité, je crois que c'est...
Ça c'est long, hein ?
Ça c'est long, or l'accessibilité conditionne plein de choses. Je lisais récemment un reportage dans lequel on disait qu'il y avait insuffisamment de handicapés qui accédaient à l'emploi. Mais quand on va sur le terrain et qu'on questionne les chefs d'entreprise, on voit qu'il y a des difficultés pour... que le handicapé arrive vers l'entreprise, Puis alors après, mais ça, ça relève de l'entreprise, il y a des problèmes structurels au sein de l'entreprise. Il y a des escaliers, pas d'ascenseur, les bureaux sont trop hauts, trop bas, etc. Donc c'est vraiment l'accessibilité pose des problèmes. On a fait beaucoup de progrès ces derniers temps sur l'accessibilité au transport en commun. Les bus sont tous accessibles à l'intérieur. Maintenant, il faut accéder aux bus. Alors, Poitiers fait quelques efforts, on augmente petit à petit le nombre de quais accessibles, mais souvent on oublie de faire les bouts des quais, c'est-à-dire qu'on descend du bus, c'est accessible. On fait 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, et là tout d'un coup le trottoir s'arrête net, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de plan incliné pour descendre. On l'a vu au moment de la construction de la rue du Faubourg du Pont Neuf, un certain nombre d'erreurs. Alors que c'était tout neuf, alors. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour signaler un truc intéressant, c'est que la Cour de cassation a pris un arrêt, je crois, au mois de décembre dernier, rendant les concepteurs et les architectes responsables si jamais l'accessibilité n'est pas mise en place et que quelqu'un conteste. Ce qui est quand même une avancée, parce que la loi de 2005 a aussi introduit cette avancée, c'est que toutes les personnes travaillant dans les métiers du bâtiment et de l'urbanisme doivent recevoir une formation à propos du handicap.
Alors, il y a cette accessibilité, vous parliez de l'emploi, il y a tout ce qui est vie politique, vie publique, c'est important pour l'autonomie des personnes en situation de handicap.
Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a très, 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 très peu de personnes en situation de handicap qui ont une fonction élective, que ce soit dans les communes ou que ce soit à l'Assemblée nationale. Là aussi, souvent, parce qu'on n'ose pas les solliciter d'une part, mais c'est surtout aussi souvent parce que l'accessibilité n'est pas garantie, quoi.
Mais pourquoi ça n'avance pas ? Qu'est-ce qui bloque ?
La volonté.
Après, il n'y a pas assez de volonté politique pour faire avancer.
Il n'y a pas suffisamment de volonté politique. Après, on peut toujours avancer des questions financières, mais les finances, quiconque gère un ménage, c'est bien que les finances, on les manage comme on veut. Je veux dire, si on doit absolument s'acheter un pantalon, on va peut-être éviter une sortie au cinéma. C'est un choix. Et là, le choix des politiques ne se fait pas en faveur de l'accessibilité. Je vous invite à aller visiter le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous verrez combien l'accessibilité n'existe pas dans ces deux enceintes.
Et d'ailleurs, dans cette loi, il y a certains décrets qui, 20 ans après, ne sont toujours pas publiés. Ah parce oui, que oui. Chaque loi doit avoir des décrets d'application.
Hein. Bien sûr. Alors, j'en ai pas en tête, mais par exemple, sur la loi de 1975, on a attendu 20 ans avant que le décret et l'arrêté sur la mise en accessibilité des trottoirs soient publiés. 20 ans pour une bricole comme ça. Il y a plein de décrets qui ne sont pas encore publiés, parce que là aussi, ça... Il y a un manque de volonté des politiques, il y a un manque de volonté de certains ministères, effectivement, d'impliquer leurs administrations dans des travaux coûteux, dont on ne se rend pas forcément compte de la nécessité. Mais je dirais même que dans ce domaine-là, les Jeux paralympiques ou certains films peuvent être contre-productifs. Allez raconter une anecdote. Il y avait une caricature dans le Canard enchaîné, où un type est égaré sur une place réservée aux personnes handicapées, arrive une personne handicapée avec sa voiture qui réclame la place, et l'autre lui dit « ça fait 15 jours qu'on vous voit courir, alors vous n'avez pas... » Donc il y a aussi des stéréotypes, il y a des choses comme ça, où on transfère... Je veux dire, ce qu'ont été capables de faire les para-athlètes, ça, c'est une minorité de gens qui peuvent le faire dans ce monde-là. Et à côté de ça, il y a tous ces problèmes. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un hôpital de la région Nouvelle-Aquitaine qui ne pouvait pas accueillir les femmes en situation de handicap parce qu'il n'y avait aucune table gynécologique adapté. Donc c'est, on va au TAP à Poitiers, l'accessibilité est, je dirais, à minima, quoi. On peut pas, une fois qu'on arrive dans la salle, je ne parle pas de l'auditorium, mais de la salle de spectacle, là on est entouré d'escaliers.
C'est compliqué au quotidien. Et il y a aussi cette question du pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap, un vrai point noir aussi pour en France aujourd'hui.
Oui, pas qu'en France, hein. C'est assez général.
Et avec des situations de précarité
voilà, à énorme, la rente. Énorme, parce que bon, même l'AAH, pour ceux qui en bénéficient, a été largement revalorisée. En même temps, 1 000 euros par mois, c'est déjà pas facile pour quelqu'un de valide, mais quelqu'un qui est en situation de handicap, qui a des frais médicaux, dont une grande partie n'est pas remboursée, qui est en fauteuil, Un fauteuil, la sécurité sociale rembourse à peu près 2000 euros sur un fauteuil, alors qu'un fauteuil, ça peut coûter jusqu'à 40 000 euros. Les cannes ne sont pas remboursées. Moi, sans ma canne, je ne vis pas. Après, il y a des situations qui sont variables, mais globalement, les personnes en situation de handicap sont en situation financière difficile. Les remboursements sont rares, encore rares, et ne couvrent pas la totalité des frais engagés par les personnes. Bien des personnes handicapées ne peuvent pas prendre le train, donc prennent un bus et prennent un taxi. Alors il y a des villes qui ont mis, mais il faut quand même une certaine importance de la ville pour mettre en place un service spécial, mais le service spécial est quand même très très réduit. Alors, je vais donner l'exemple de Poitiers, puisque nous sommes à Poitiers, mais c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Grenoble. En 10 bus, il faut réserver 48 heures avant, il faut d'abord s'assurer qu'on est éligible à en 10 bus, il faut réserver 48 heures avant. Le bus vous dit j'arrive, vous avez rendez-vous à 9h, il vous dit j'arrive à 9h-20 ou à 9h20, et puis quand vous repartez de votre rendez-vous, si vous n'êtes pas pile poil à l'heure, le bus est parti, vous restez là. Donc c'est... Alors, après, pour travailler avec Vitalis, je sais que c'est difficile à mettre en place, c'est difficile parce que c'est coûteux. Alors, bon, Grand Poitiers a amélioré un petit peu les choses, puisqu'on a, Grand Poitiers, elle avait lancé un projet qui a été remporté par le GIHP de création d'un accompagnateur dans les bus. Alors ça, c'est une grosse avancée. Je pense que ça rencontrera du succès, et je souhaite vraiment que ça rencontre du succès, des gens qui pouvaient être un peu gênés pour prendre le bus, parce qu'on ne leur laisse pas la place dans le bus, parce que c'est difficile de monter sur le trottoir, etc. Avec un accompagnateur, ces gens-là pourront le faire. Voilà, mais ça reste quand même des domaines qui manquent de réflexion globale, et parce que ce n'est pas parce que vous mettez des vélos adaptés en location ou au prêt que ça solutionne beaucoup. C'est pareil, les gens qui peuvent faire du vélo, ce n'est pas la totalité de la population et ce n'est pas la totalité des personnes en situation de handicap. Alors ceci dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Il faut le faire parce qu'il y en a qui peuvent utiliser les vélos, donc il faut leur donner des vélos.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des rassemblements qui sont prévus donc la semaine prochaine, lundi 10 et mardi 11 février, donc Square de la République à Poitiers et à l'Esplanade François Mitterrand à Châtellerault.
Voilà, donc c'est des rassemblements qui ont été initiés par l'APF au niveau national. Il y aura d'ailleurs une manifestation le 10 février, 17h30, place de la République à Paris. Et donc ici à Poitiers, on a pris la décision de faire un premier rassemblement à Poitiers le 10, entre 12h30 et 13h30, pour justement faire prendre conscience des difficultés, expliquer, rencontrer des gens. Et on reproduit cette opération à Châtellerault le lendemain. J'ai plus le lieu, par contre, en tête, mais vous devez l'avoir.
Oui, c'est Esplanade François Mitterrand,
voilà, à Châtellerault. Donc pareil, 12h30, 13h30, pour rentrer en contact de la population, expliquer les difficultés qui sont nombreuses, parce qu'on a évoqué l'accessibilité, mais on pourrait aussi évoquer le suivi à domicile, quoi, l'aide à domicile, qui est une véritable catastrophe, et pas que pour les personnes en situation de handicap, c'est la même difficulté pour les personnes âgées qui restent à domicile.
Oui, il faut savoir qu'effectivement, en vieillissant, on peut aussi se retrouver en situation de handicap. Oh. Merci beaucoup Jean-Jacques Latouille, donc, de la délégation APF France Handicap de la Vienne, d'être venu nous alerter sur cette mobilisation donc la semaine prochaine, lundi et mardi, à Poitiers et Châtellerault, entre 12h30 et 13h30, et bien pour faire avancer encore les choses après ces 20 ans de la loi handicap du 11 février 2005. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec Alma Mango, ce titre Karat, issu de l'album Flamme, une artiste de la scène rap bordelaise.
Rêve de gamine, envie de prendre mes valises, ouais. Tu connais la mécanique, plus t'avances et tu veux qu'on te valide. Et puis tu mets de côté tout ce qui te fait plonger, même si à défaut tu perds pied, tu grattes sans regarder le cadran, à la lueur d'espoir, bercé par tes rêves d'enfant. Hein. Tout remettre à demain, mais demain c'est loin. Tout recommencer quand en vrai c'était bien. L'humain n'est jamais satisfait de ce qu'il tient, on chipote, on blabla quand y'en a qui ont rien. On perd notre temps sur internet, noyé dans la masse à coups d'image jolie, c'est parfait, ouais. On gère les plans depuis perpète, que la déterre qui est certaine. C'est pas dans ma tête. Fais poser beaucoup trop de questions. J'y croirais sans cesse, sans relâche, jamais retourner mon veston. Ouais, j'ai mon clan, ouais, j'ai mon bras droit, ouais, j'ai mon sang, même si j'ai nada. Ouais, j'ai mon gang, ouais, pas les caras, mais j'ai le temps, tu sais. On charbonne chaque jour. jours. La vie te fait emprunter tant de détours. Tous les jours, et quoi qu'il en coûte, le compte à rebours ne nous laisse aucun recours. Vive chaque moment comme le dernier, je rêve comme je respire, c'est ce qui fait que j'existe. Hey. Faut vivre chaque moment sans regretter, même s'il y a le vertige, c'est ce qui fait qu'on persiste, ouais. On persiste, on va leur prouver comme on existe. On va leur prouver qu'on est technique, qu'on a les placements qui nous mettent en tête du classement, ouais. On marque le terrain, à chaque pas on trace la suite de notre destin. On déblaye le chemin, on ouvre la route et ça servira un jour, on sait qu'on vient de loin, ouais. C'est toi dans ma tête, fais poser beaucoup trop de questions. J'y croirais sans cesse, sans relâche, jamais retourner mon veston. Ouais, j'ai mon clan, ouais, j'ai mon bras droit, ouais, j'ai mon sang. Même si j'ai nada, ouais, j'ai mon gang, ouais, pas les caras, mais j'ai le temps, tu sais. C'est toi dans ma tête, fais poser beaucoup trop de questions. J'y croirais sans cesse, sans relâche, jamais retourner mon veston. Ouais, j'ai mon clan, ouais, j'ai mon bras droit, ouais, j'ai mon sang. Même si j'ai nada, ouais, j'ai mon gang, ouais, pas les caras, mais j'ai le temps, tu sais. C'est toi dans ma tête. Même si j'ai nada, ouais j'ai mon gang, ouais pas les caras, mais j'ai le temps, tu sais. Cette voix dans ma tête fait poser beaucoup trop de questions. J'y croirais sans cesse, sans relâche, jamais retourner mon veston. Ouais j'ai mon clan, ouais j'ai mon bras droit, ouais j'ai mon sang. Même si j'ai nada, ouais j'ai mon gang, ouais pas les caras, mais j'ai le temps, tu sais.
De professionnel, je dirais.
Bizarre.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
Quels sont les impacts de la transition écologique sur nos vies et sur les métiers? Jusqu'au 25 mai, jeunes comme adultes sont invités à découvrir une exposition visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux et à l'adaptation des métiers à ces enjeux. Yves s'est rendu sur place.
Ce mercredi 22 janvier marque l'inauguration de l'exposition Mission Transition à l'espace Mendès France de Poitiers. Exposition qui vise, sous forme d'ateliers ludiques, quiz et films immersifs, à faire découvrir à toutes et tous, et en particulier aux jeunes et demandeurs d'emploi, de nouvelles pratiques plus écologiques, plus durables dans différents secteurs d'activité. La venue de l'exposition est à l'initiative de l'ERIP, l'espace régional d'information de proximité, de la mission locale d'insertion du Poitou et de l'espace Mendès France, et créée par Cap Métier. Elle sillonne la région et est soutenue financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est présente à partir de ce 22 janvier à l'espace Mendès France.
L'exposition donc, qui est mise à disposition donc, sur le bassin d'emploi de Poitiers donc, a vocation à présenter tous les... Enfin, en tout cas une partie importante des métiers de la transition écologique. Donc à travers les métiers du transport, les métiers de la production, les métiers de la fabrication, en général c'est les métiers industriels, les métiers de l'agriculture à travers l'atelier Nourrir et les métiers de la valorisation.
C'était Ouisa Méziane de Cap Métier et Benjamin Carré de la mission locale d'insertion du Poitou était également présent et est revenu sur les objectifs de cette exposition.
J'ai un souvenir assez vivace. Quand on a commencé fortement à parler d'écologie, quand je dis fortement, à ce que les gouvernements, mais même les consciences individuelles finalement s'en préoccupent, je pense qu'on a tous eu là une représentation collective qui était celle, oulala, il y a plein de métiers en effet nouveaux qui vont émerger de tout ça, de cette révolution verte quelque part. Hein. Et en fait, ce que va venir déjà montrer cette exposition-là, c'est que non, on ne fait parler en fait que de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, voilà, etc., etc., et même de nouvelles approches, de nouvelles démarches intellectuelles, et qui viennent en effet s'injecter finalement sur des métiers existants. Et du coup, finalement, je dirais moi, c'est présenter un renouvellement des pratiques métiers, et c'est peut-être de ça dont il est question en fait. Hein. Ces expositions, elles servent à nourrir finalement des élèves, des demandeurs d'emploi, des adultes qui occupent déjà un emploi mais qui se questionnent et qui voudraient évoluer vers d'autres métiers et pourquoi pas avec une sensibilité verte. Bah, on va donner en tout cas des repères un peu plus factuels puisque c'est une mise en pratique à travers des quiz, des petits exercices à faire, exercices évidemment entre guillemets, je ne veux pas faire peur, mais voilà, c'est ça dont il s'agit, donc je dirais donner des repères.
Pendant la présentation de l'exposition, j'ai pu rencontrer le gérant de Show & Co, une entreprise en SCOP, travaillant avec des matériaux biosourcés dans le bâtiment ancien. Une partie de l'exposition était dédiée à leur savoir-faire.
On est basé à Genet-Marigny, on est 6 dont un apprenti dans l'entreprise, et on travaille les matériaux biosourcés dans le bâtiment ancien. On fait de la rénovation en bâtiment ancien à base maximum possible de matériaux biosourcés. Et là, on est en train de voir une vidéo que Cap est venu tourner sur un de nos chantiers de projection de béton de chanvre. Le chanvre, en fait, c'est une plante qui encapsule de l'air. L'air, c'est ce qui fait l'isolant dans un isolant. Et nous, on se sert de cette plante-là qu'on mélange à de la chaux ou de la terre et qu'on vient projeter sur les murs pour faire un isolant sur des murs en pierre, sur du bâti ancien de façon générale, mais ça peut être aussi sur du neuf, sur des maisons à ossature bois. Donc l'intérêt, c'est que le chanvre, une plante, quand elle pousse, elle absorbe beaucoup de carbone. Et du coup, elle dépollue un peu l'atmosphère. Et nous, en fait, on vient le prendre et on vient l'encapsuler, le fixer sur les murs. Et c'est un bon isolant. Du coup, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Et quand on travaille la terre avec, parce qu'on peut aussi faire des projections terre-chanvre, du coup, ça a vraiment un impact positif sur l'environnement. Je vais voir la suite, parce que ouais. Je vois des choses derrière.
On a des espèces d'ateliers ludiques, en fait.
D'accord. Pour faire un toit, d'accord. Faut faire charpente, enfin isolation, charpente. Et d'ailleurs, parement de bardage, ça dit. Oui, donc faut mettre le frein à terre. Pas la terre, hein.
Oui.
On découvre.
Donc déjà, on met la bâche.
Voilà. Alors ça, c'est pas la bâche, d'ailleurs, c'est à l'envers. C'est le frein à vapeur.
Le frein à vapeur.
Lui, il sert à faire l'étanchéité à l'air. Parce qu'une bonne isolation sans étanchéité à l'air, c'est beaucoup moins performant. Et il sert aussi à réguler le passage de la vapeur d'eau dans la paroi. Parce que okay. Si vous êtes à l'intérieur, il fait chaud, vous êtes à l'extérieur, il fait froid. L'air qui va passer, la vapeur qui va passer est chargée, l'air est chargé de vapeur d'eau, pardon, va passer à travers la paroi. Et nous, ce qu'on veut pas qu'il arrive, c'est qu'elle arrive trop vite sur la partie froide, parce que sinon, ça crée un point de rosée. En fait, on a de la condensation qui se fait, et à terme, on a des pourrissements. Donc, okay. Cette petite membrane, le frein à vapeur, sert aussi à réguler, à ralentir le passage de la vapeur d'eau dans la paroi, pour pas avoir ce point de rosée. Oui, l'idée, c'est pas de l'arrêter complètement, c'est juste de la réguler pour pas qu'on se retrouve avec des moisissures en plein milieu de la paroi. Donc là, on vient de mettre ça, je découvre en même temps. Donc après, il y a les pannes.
Donc ça, c'est des pannes, vous dites.
Ouais, ça, c'est des pannes intermédiaires.
Tu veux un coup de main, parce que je vois que t'es en béton.
Bah ouais, j'ai pas regardé le plan, bon artisan.
Et enfin, Cindy Bignas et Stéphanie Auvray, toutes deux médiatrices scientifiques à l'Espace Mendès France, m'ont présenté un jeu comme exemple d'activité ludique disponible au sein de l'exposition.
On va se mettre dans la peau d'un agent valoriste et on va être chargé justement du tri et de la valorisation de ces déchets dans une entreprise de recyclage. Donc on va répondre à des questions qui vont effectivement être liées à cette thématique-là pour gagner des ressources et ensuite être en mesure de les valoriser. Donc par exemple, sur les questions, on va demander comment appelle-t-on le fait que certains produits soient conçus dans le but de devenir inutilisables rapidement. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, par exemple.
On a 3 piles de cartes, la pile question, la pile ressources et la pile valorisation.
Effectivement, donc on va répondre aux questions, ce qui va permettre de gagner des ressources. Et une fois qu'on a une assez grande quantité de ressources, on va pouvoir les valoriser. Donc, par exemple, quand on a gagner des bouteilles en verre, on va pouvoir ensuite revaloriser ça pour en faire autre chose. Quand on gagne des déchets organiques, par exemple, si on en a suffisamment, on va pouvoir produire du compost.
L'exposition reste accessible les mercredis, samedis et dimanches après-midi et pour les scolaires durant toute la semaine en groupe, et ce jusqu'au 25 mai prochain.
Demain dans Séquence Midi, on parlera d'une marche jaune organisée par le centre hospitalier Laborie ce mercredi pour la prévention du suicide et puis d'une initiative avec des anciens élus pour renforcer la culture civique dans les écoles et collèges de la Vienne. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Et il est présenté par Yves.
Et oui, bonjour Anaïs, bonjour tout le monde. Au programme de ce mardi 4 janvier, nous avons d'abord...
Février.
4 février, pardon. Nous avons tout d'abord le musée des machines à écrire de Montmorillon qui organise des visites guidées gratuites toutes les demi-heures, donc de 14h30 à 16h30. Ouverture sur inscription et vous pourrez découvrir la collection des premières machines à écrire des années à partir des années 1880. Rendez-vous donc de 14h30 à 16h30 au musée des machines à écrire atypiques de Montmorillon. Et donc à Poitiers, en soirée, il y a la locomotive, donc le bar associatif Boulevard Grandserre, qui organise, comme chaque premier mardi du mois, de 20h à minuit, une soirée jeux de société. Venez découvrir et jouer à plusieurs. La journée est animée par Clément du Temple du Jeu dans le Wagon Bar. Et une conférence gratuite sur les trous noirs à l'espace Mendès France, c'est ce soir également de 20h30 à 22h. Il s'agira d'une conférence immersive d'Alain Riazuelo, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Au moyen de simulations numériques, vous pourrez donc découvrir les trous noirs sous toutes leurs coutures. La séance est gratuite sur réservation. Et enfin, à Saint-Benoît, l'orchestre de l'Université de Poitiers va performer ce soir à 20h30 à la Une. Les musiciens vous proposent un programme alliant les thèmes de la danse et du féminin. La billetterie est en ligne où il y a la possibilité d'avoir ses billets donc à l'office du tourisme de Saint-Benoît ou avant au niveau donc de la Une avant le concert.
Merci beaucoup Yves, on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin sur Pulsar. À 18h, c'est À l'Assaut, présenté par La Fève, qui fait des rencontres des acteurs associatifs. À 19h, Slam à tout va, avec ce soir le groupe Psycho Crew, jeune groupe originaire de La Rochelle et de Poitiers, qui viendront parler de leur univers musical, avec bien sûr des prestations en live, et puis le jeu des mots de la semaine. Vous pouvez appeler pour déclamer en direct ou passer directement à la maison des étudiants pour participer à l'émission. 20h, c'est Pétale de Sakura. 21h, c'est Culture Dub, pour écouter tous les nouveaux morceaux roots, reggae, digital, dub, stepa, electro-dub et puis des morceaux exclusifs avec toutes les productions des labels de reggae et de dub avec notamment Mooney et le deuxième single de Culture Dub All Stars et vous pourrez gagner vos places pour Expression Dub 2 et pour Vitrol Dub Station. Et à 23h, c'est Novorama avec Céline Sivad en interview. Merci Papa Cortex pour la réalisation de cette émission. Après deux EP, le duo rennais Atom poursuit son exploration musicale avec son premier album Entropie, pensé comme un tout cohérent. L'entropie évoque le degré de désordre d'un système. Et voici le titre Uprising. Bon après-midi en musique. À demain.
regardez.